L'Assemblée générale.
L'Assemblée générale va à présent entendre une intervention de Son Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence, M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Et je l'invite à présent à la tribune. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et Messieurs, en cette année déclarée Année internationale de la solidarité par l'Assemblée générale des Nations unies, solidarité avec le peuple palestinien, Israël a choisi de faire de cette année une année de nouvelles guerres de génocide perpétrées à l'encontre du peuple palestinien. En cette année, pendant laquelle cette Assemblée, au nom des pays et des peuples du monde, a exprimé les aspirations et la détermination du monde de réaliser une paix juste qui permette la liberté et l'indépendance du peuple palestinien dans son État de Palestine aux côtés d'Israël. La puissance occupante a choisi de défier la planète tout entière en lançant sa guerre contre Gaza, dans le cadre de laquelle ses avions, ses chars ont brutalement assassiné des vies dévastées, des maisons, des écoles, fait voler en éclats les rêves des enfants palestiniens, des femmes, des hommes, et dans la pratique réduisant à néant leurs derniers espoirs de paix. Mesdames et messieurs, j'ai pris la parole ici même en des heures semblables en 2012. J'avais mis en garde la communauté disant que la puissance occupante coloniale préparait une nouvelle Nakba contre le peuple palestinien. Et j'avais lancé un appel, empêcher une nouvelle Nakba, appuyer l'établissement d'un État libre et indépendant de Palestine maintenant. Je suis revenu ici, dans cette salle, 2 mois plus tard, alors que la Palestine pansait ses plaies et que son peuple enterrait ses enfants, ses femmes, ses hommes, chéris et martyrs, après une autre guerre menée contre la bande de Gaza. Et ce jour-là, j'avais déclaré qu'il ne faisait aucun doute qu'aucune personne au monde n'avait besoin que des dizaines d'enfants palestiniens, des dizaines de milliers d'enfants palestiniens perdent la vie pour confirmer qu'Israël insistait encore pour occuper notre terre et que nous n'avions pas besoin de milliers de raids meurtriers, de tonnes d'explosifs pour rappeler au monde qu'une occupation était en cours qui devait s'achever et qu'un peuple devait être libéré. Nous voici ici à nouveau réunis. Nous sommes pétris de douleur, de regret, d'amertume, à parvenir une fois encore aux mêmes conclusions, à soulever les mêmes questions après une nouvelle guerre. La troisième guerre menée par l'État d'occupation raciste. Troisième guerre en l'espace de 5 ans menée contre Gaza. Une petite région densément peuplée et précieuse de notre pays. La différence aujourd'hui est que l'ampleur de ce crime de génocide est plus grande encore. Et la liste des martyrs, notamment des enfants, s'est allongée. De même que la liste des blessés, des handicapés, des dizaines de familles ont été entièrement disséminées. La différence aujourd'hui est qu'un demi-million de personnes ont été déplacées. Le nombre de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de bâtiments publics, de bâtiments résidentiels, de mosquées, d'usines et même de cimetières détruits, ce nombre, disais-je, est sans précédent aujourd'hui. La différence aujourd'hui est que les dégâts causés par cette récente agression sont sans précédent, notre ère moderne, comme en a témoigné le commissaire général de l'UNRWA. Cette dernière guerre en date menée contre Gaza constitue une carrière de crimes de guerre absolue perpétrée au vu et au su de la planète, suivi heure après heure. Nul ne peut prétendre aujourd'hui ne pas être conscient de l'ampleur des crimes perpétrés. Personne ne saurait défendre le droit d'Israël à l'autodéfense sans égard pour le sort des milliers de victimes, ignorant le simple fait que nous leur rappelons aujourd'hui que la vie d'un Palestinien est aussi précieuse que la vie de tout autre être humain. Ignorer les faits sur le terrain ne permettra pas de les effacer. Nous devons partir du principe que nul ne peut aujourd'hui se demander pourquoi l'extrémisme est en hausse, pourquoi la culture de la paix perd du terrain. Et pourquoi les efforts pour réaliser la paix échouent? Et pourtant, nous pensons et nous espérons que personne n'essaiera de soutenir l'occupation en toute impunité. Et dans le cadre des tentatives visant à se soustraire à toute responsabilité. Au nom de la Palestine, mesdames et messieurs, j'affirme ici aujourd'hui que nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. Nous ne permettrons pas aux criminels de guerre de se soustraire à toute sanction. J'affirme ici devant vous que le peuple de Palestine reste fidèle à son droit légitime de se défendre contre la machine de guerre israélienne. Défendre son droit légitime de résister face à cette occupation coloniale et raciste par Israël. Dans le même temps, j'aimerais affirmer que notre chagrin, les traumatismes subis et notre colère ne nous mèneront jamais à renoncer à notre humanité, à nos valeurs, à notre éthique. Nous préserverons toujours notre respect, notre engagement en faveur du droit international, du droit humanitaire international et du consensus international. Nous préserverons la tradition de notre lutte nationale lancée par les fadéines palestiniens en faveur desquels nous nous sommes engagés depuis le début de la révolution palestinienne, début 1965. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, face à ce tsunami de massacres, de tempêtes, de destruction massive, nous avons été témoins des rassemblements organisés de par le monde, des manifestations immenses organisées dans les rues de nombreuses villes en condamnant cette agression, en demandant la libération de la Palestine. Nous avons été témoins du fait que sur différents continents, la majorité des pays déclarait le même but noble, s'efforçait d'offrir toutes sortes de soutien, d'assistance à notre peuple. Nous avons été témoins de l'élargissement des activités menées à l'échelle internationale par dans le cadre de campagnes de boycott contre les politiques d'occupation, d'apartheid et de colonisation d'Israël, notamment parmi les groupes d'universitaires culturelle et de jeunes au nom de la Palestine. Nous saluons tous ceux qui défendent les valeurs humaines et exigent la liberté, la justice et la paix. Toutes les manifestations de solidarité authentique ont représenté un message important pour ceux qui étaient confrontés à ce génocide à Gaza. Ils les ont aider à prendre conscience du fait qu'ils n'étaient pas seuls. La récente guerre menée par Israël a confirmé sur le terrain l'essence même de ce que déclarait le gouvernement israélien derrière les portes closes des négociations. Cette guerre est intervenue après de longues et difficiles négociations menées plus de 8 mois durant, sous l'égide des États-Unis. Après que le président Barack Obama ait déployé des efforts, après les efforts tenaces de son secrétaire d'État, John Kerry, nous nous sommes associés à cette entreprise de bonne foi, avec une grande ouverture d'esprit, de manière positive. Nous nous sommes associés aux efforts déployés par l'administration américaine. Nous avons défendu nos positions fermes sur la base des résolutions imposant la légitimité internationale. Nous avons respecté tous nos engagements, toutes les ententes conclues. Alors que nous étions les témoins de l'escalade de la violence, nous avons fait montre d'une retenue inimaginable, taisant les cris d'une population, pansant nos plaies afin de donner toutes les chances de succès possibles aux efforts déployés par les États-Unis. Toutefois, comme à l'accoutumée, le gouvernement israélien n'a pas manqué l'occasion de saper les chances de paix. Au fil de mois de négociations, la construction de colonies, les confiscations de terres, les démolitions de maisons, les assassinats, les campagnes d'arrestation, les déplacements forcés à grande échelle dans la bande de Gaza se sont poursuivis avec la même intensité. Le blocus imposé à la bande de Gaza est encore renforcé. La campagne d'occupation a ciblé plus particulièrement la ville de Jérusalem et ses habitants, essayant de dénaturer de manière artificielle l'esprit, l'identité et la nature de la ville sainte, se concentrant sur la mosquée Al-Aqsa, menaçant d'avoir des conséquences très graves. Dans le même temps, des bandes racistes et armées de colons continuaient de perpétrer des crimes contre le peuple palestinien, sa terre, ses mosquées, ses églises, ses biens et ses oliviers. Comme à l'accoutumée, le gouvernement israélien n'a pas réussi à instaurer la paix. Il a violé un accord avec l'administration américaine portant sur la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons d'occupation. Nous continuons d'insister pour que tous soient libérés. Lorsque des questions simples leur étaient posées dans le cadre des négociations directes ou par le biais du médiateur américain, le gouvernement israélien n'a pas hésité à révéler son vrai visage. Israël refuse de mettre un terme à l'occupation de l'État de Palestine, État occupé depuis 1967. Bien au contraire, il s'efforce de maintenir l'occupation, de l'approfondir encore, rejette l'État palestinien, refuse de trouver une solution juste au sort des réfugiés palestiniens. Telle est la position officielle du gouvernement d'Israël. L'avenir proposé par le gouvernement israélien au peuple palestinien implique, dans le meilleur des cas, des ghettos isolés pour les Palestiniens, sur des terres fragmentées, sans frontières, sans souveraineté sur son espace aérien, ses ressources en eau, ses ressources naturelles, lesquelles resteront sous le joug et le contrôle des colons racistes et de l'armée d'occupation. Dans le pire des cas, cet avenir proposé sera une forme des plus odieuses d'apartheid. D'aucuns estiment que nous devons créer deux États, mais où est l'État de Palestine? Voilà l'État de Palestine qu'Israël souhaite créer. Israël a confirmé dans le cadre des négociations qu'il rejetait la paix avec ses victimes, le peuple palestinien. Tout cela s'est déroulé parallèlement à une tentative visant à donner une connotation religieuse au conflit, sur fond de racisme croissant et endémique au sein, dans le cadre du discours politique et dans les médias israéliens, un discours profondément ancré dans les programmes scolaires et dans toute une série de lois et de pratiques d'occupation. Cette culture du racisme, de l'incitation à la violence et à la haine, est apparue avec une évidence aveuglante dans le crime méprisable et effroyable perpétré il y a quelques mois par des colons fascistes qui ont enlevé le jeune Mohamed Aboukdeir de Jérusalem, l'ont brûlé vif et l'ont assassiné. Ce qui nous rappelle quelque chose d'autre. Au cours des années écoulées, la puissance occupante a également maintenu une politique visant à affaiblir délibérément l'autorité nationale palestinienne pour la saper et réduire à néant son rôle. L'occupation a directement ciblé le travail réalisé pour jeter les bases de l'État de Palestine que nous souhaitons, un État souverain et indépendant, vivant en paix, bâtissant des ponts, créant une coopération mutuelle avec ses voisins, un État qui respecte ses engagements, ses obligations et les accords, qui renforce les valeurs de citoyenneté, d'égalité, de non-discrimination, d'État de droit, les droits de l'homme et le pluralisme, qui approfondissent les traditions palestiniennes de tolérance, de cohabitation et de non-exclusion, qui renforcent la culture de la paix, promeuvent le rôle des femmes, instaurent une administration effective engagée en faveur de la bonne gouvernance. L'occupation vise à imposer son propre modèle. Il s'agit là de l'antithèse de ces politiques de colonisation, puisqu'ils souhaitent réduire à néant toute chance de réalisation d'un État palestinien indépendant dans le cadre d'une solution à deux États. Lorsque les efforts déployés pour venir à bout des divisions internes par le biais d'un dialogue national ont porté leurs fruits il y a quelques mois et que nous nous sommes préparés à rétablir l'unité de notre terre, de notre nation, de nos institutions et avons constitué un gouvernement de consensus national et lancé le processus d'organisation d'élections présidentielles et législatives, tout les États du monde se sont félicités de cette réalisation, à l'exception d'Israël, qui n'a eu de cesse de fragmenter notre terre et notre unité nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à présent, qu'allons-nous faire? L'idée selon laquelle il serait simplement possible de revenir aux méthodes de travail du passé qui n'ont cessé d'échouer, est au mieux naïve et, quoi qu'il en soit, erronée. Elle ignore en effet qu'il n'est plus acceptable, qu'il n'est plus possible de répéter les méthodes qui se sont avérées futiles, de maintenir les approches qui ont constamment échoués et qui doivent être revus de manière radicale. Je le répète, il est impossible de reprendre le cycle de négociations qui n'ont pas permis de régler le cœur du problème et la question fondamentale. Ces négociations, dans le cadre desquelles Israël détermine à l'avance les résultats par le biais de ses activités d'occupation et de colonisation ne sont ni crédibles ni sérieuses. Les négociations pour lesquelles dont l'objectif convenu n'est pas de mettre un terme à l'occupation d'Israël et qui ne vise pas à créer un État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale sur le territoire palestinien occupé pendant la guerre de 1967, n'a aucun sens. Nous avons besoin d'un calendrier très clair pour réaliser cet objectif. L'heure est plus que venue de mettre un terme à cette occupation et à la colonisation. La Palestine refuse de voir le droit de son peuple, qui est victime d'actes de terrorisme réalisés par la puissance occupante raciste. La Palestine refuse que sa population reste l'otage d'Israël. Le peuple palestinien a besoin d'une protection internationale immédiate. C'est ce que nous demandons aux organisations internationales. Nous avons besoin de sécurité et de paix, plus que tout autre peuple. Les enfants de Palestine méritent les efforts du monde pour faire en sorte que leur enfance, leurs rêves, leur vie ne soient pas une fois encore réduits à néant. Le moment est venu de clore les chapitres de cette tragédie prolongée. Ceux qui ont été déracinés de leur terre, de leur maison, de leur beau pays, dans le cadre de la Nakba il y a 66 ans, ceux qui ont été propulsés dans la misère de l'exil, dans une vie de réfugiés, et sont aujourd'hui victimes de nouvelles vagues d'expulsion, sont contraints de prendre la mer au risque de leur vie. Ces populations ont besoin d'assurance. Elles doivent savoir qu'elles ne seront plus déplacées, qu'elles n'auront plus à quitter leur foyer, que leurs maisons ne seront plus détruites, qu'elles ne passeront pas leur vie dans l'attente d'une nouvelle guerre. Le moment est venu de mettre un terme à cette tragédie. Nous n'accepterons pas de rester encore et toujours ceux dont on exige qu'ils prouvent leurs bonnes intentions en faisant des concessions aux dépens de leurs droits. Ceux qui doivent rester silencieux alors qu'on les assassine, que leur terre leur est volée. Ceux à qui l'on demande de comprendre les conditions de l'autre partie et l'importance de préserver son gouvernement de coalition alors qu'il subit l'occupation. Nous essayons de vivre, d'exercer ce droit très simple de rêver à des jours meilleurs. Nous espérons un avenir plus stable. Nous voulons que nos jeunes puissent planifier leur avenir dans la paix, dans la sécurité, dans leur pays, comme toutes les autres populations de ce monde. Le moment est venu d'instaurer une paix juste dans une terre de paix. Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous sommes le seul peuple encore occupé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous, aux côtés des autres pays arabes, n'ont eu de cesse de mettre en garde contre les catastrophes, les conséquences catastrophiques de la poursuite de l'occupation israélienne et du déni de la liberté et de l'indépendance du peuple de Palestine. Nous n'avons eu de cesse d'attirer l'attention sur le fait que permettre à Israël d'agir en tant qu'État, n'étant pas tenu de respecter le droit dans toute impunité, sans risque d'être sanctionné pour ses politiques, son agression et sa défiance. Tout cela a créé un terreau fertile, un environnement propice à l'extrémisme, à la haine et au terrorisme dans notre région. faire face au terrorisme, qui est le fléau de notre région, du fait de groupes tels que le YEL, Daesh ou d'autres, qui sont sans aucun fondement dans la religion tolérante de l'islam. Ces groupes commettent des atrocités brutales, haineuses, et exigent davantage qu'une confrontation militaire. La question est urgente. Elle exige bien plus qu'une simple condamnation, que des déclarations de position, lesquelles restent certes nécessaires. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une stratégie d'ensemble crédible qui permettra d'éradiquer les sources et les racines du terrorisme dans notre région, à tous les niveaux politiques, intellectuels et économiques. Nous avons besoin de jeter des bases solides pour forger un consensus raisonnable et pratique qui permettra de lutter contre toutes les formes de terrorisme, où que ce soit, dans le cadre d'efforts collectifs déployés par l'Alliance des nations, des peuples et des civilisations. Cette situation exige, à titre prioritaire, de mettre un terme à l'occupation israélienne de notre pays, laquelle constitue une forme méprisable de terrorisme d'État qui fait le lit de la haine, du terrorisme, de l'incitation à la violence. Monsieur le Président, alors que nous continuons de pâtir des horreurs de la guerre, nous sommes confrontés à un défi de taille, à savoir reconstruire ce qui a été détruit par l'occupation. C'est la troisième fois que nous devons reconstruire, à l'invitation de la République arabe de l'Égypte et du Royaume de la Norvège, que nous remercions sincèrement, la ville du Caire accueillera le mois prochain une conférence internationale pour les opérations de secours et la reconstruction de la bande de Gaza. Notre gouvernement présentera à la conférence des rapports complets sur les pertes infligées par l'agression aux différents secteurs de la société. Nous présenterons des plans et programmes détaillés qui seront rapidement mis en œuvre et supervisés dans la bande de Gaza pour répondre aux besoins de secours urgents, pour assurer la reconstruction en coordination avec les agences et organes des Nations Unies. Tout cela aura lieu sous l'égide des Nations Unies. Il y a plus de 2 jours, les factions palestiniennes ont insisté leur appui à Gaza pour faciliter la reconstruction, tout en remerciant une fois encore l'ensemble des États et organisations qui se sont empressés d'apporter leur assistance au peuple palestinien pendant et après la guerre. Nous sommes convaincus que les pays amis et frères continueront d'appuyer les plans et les programmes que nous présenterons. Et sommes convaincus que la conférence débouchera sur des résultats pratiques qui permettront de satisfaire aux attentes et aux besoins des victimes de cette agression. Nous réaffirmons ici que la condition préalable première du succès de ces plans et de ces efforts est de mettre un terme au blocus imposé par Israël, un blocus méprisable qui étouffe depuis des années la bande de Gaza, qui l'a transformée en la plus grande prison à ciel ouvert du monde pour près de 2 millions de citoyens palestiniens. Dans le même temps, nous réaffirmons notre engagement et la nécessité de consolider le cessez-le-feu par le biais de négociations sous l'égide de l'Égypte. Toutefois, afin de répéter ce cycle de guerre et ce cycle de reconstruction tous les 2 ou 3 ans, il est impératif de se concentrer sur la question fondamentale le point de départ de cette catastrophe, à savoir que les souffrances de Gaza ne s'achèveront que par la fin de l'occupation et l'établissement d'un État indépendant de Palestine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces deux dernières semaines, la Palestine et le groupe arabe ont pris des contacts nombreux avec les différents groupes régionaux au sein des Nations Unies afin de préparer la présentation d'un projet de résolution à adopter au sein du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, et ce, afin de faire avancer les efforts en faveur de la paix. Nous continuons de croire en la paix par le biais de la légitimité internationale. Ces efforts réaffirment notre engagement en faveur d'une paix juste par le biais d'une solution négociée. Dans le cadre d'efforts diplomatiques et politiques déployés au travers des Organisations Unies, ces efforts s'inspirent d'eux et reposent sur l'esprit et les dispositions des nombreuses résolutions que vous avez approuvées à l'Assemblée générale et consacrées dans les résolutions du Conseil de sécurité, qui ont jeté les bases d'une solution durable et d'une paix juste. Il n'y a ici rien de nouveau. Il s'agit là de résolutions qui ont été adoptées. Ces efforts visent à combler les lacunes des efforts déployés par le passé pour réaliser la paix, en réaffirmant l'objectif de mettre un terme à l'occupation par Israël et en mettant en œuvre la solution à deux États, l'État de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale sur l'ensemble du territoire occupé en 1967, aux côtés de l'État d'Israël, pour parvenir à une solution juste et concertée pour mettre un terme à la situation que connaissent les résolutions les réfugiés palestiniens sur la base de la résolution 194, sur la base d'un calendrier précis pour la réalisation de ces objectifs, tels qu'énoncés dans l'initiative de paix arabe. Nous devons nous doter d'un calendrier pour la mise en œuvre de ces objectifs. Celui-ci devra être lié à la reprise immédiate des négociations entre la Palestine et Israël pour déterminer les frontières, parvenir à un accord détaillé et complet et rédiger un traité de paix entre nos deux pays. Un accord détaillé et précis sur le statut définitif de nos pays et donc un traité de paix complet entre nos deux pays. Nous sommes convaincus que ces efforts sont largement soutenus par ceux qui se sont engagés à faire en sorte que notre pays ne soit plus le théâtre de nouvelles guerres et atrocités, par ceux qui souhaitent appuyer cette campagne de lutte contre le terrorisme, par ceux qui pensent qu'il est nécessaire d'agir rapidement pour corriger cette injustice historique infligée par la Nakba au peuple palestinien, et par ceux qui souhaitent que la paix prévale sur la terre des religions monothéistes. L'adoption de cette résolution réaffirmera ce que vous vous êtes efforcé de réaliser cette année dans le cadre de l'année internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, peuple qui poursuivra sa lutte, qui conservera toute sa bravoure et renaîtra plus fort après la destruction. Comme le disait le poète Mahmoud Darwish, nous sommes touchés par maladie incurable, à savoir l'espoir. Nous sommes infectés par cette maladie qu'est l'espoir. Nous aimons la vie, pour autant que nous en donnions l'occasion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une occupation est en cours, elle doit s'achever maintenant. Un peuple doit être libéré immédiatement. L'heure de l'indépendance de l'État de Palestine a sonné. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.
On behalf.
Au nom. Au nom de l'Assemblée générale de l'ONU, je souhaite remercier le président de l'État de Palestine pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Puis-je demander aux représentants de rester assis alors que nous saluons le président?